Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour les débats entre 11h moins le quart et midi, avec aujourd'hui Yves Damécourt, bonjour. Vous êtes porte-parole du mouvement de la ruralité. Michel Pouzol, ancien député, membre de Génération.
Bonjour. Bonjour.
Mathis Brasca, vous êtes étudiant en sciences politiques. Bonjour, bonjour à vous. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à bonjour. Vous, Jean-Luc. Il fait beau à Marseille ?
Ça va venir.
Ça va venir, bon, il faut être positif. Avant la présidentielle, embouteillage des candidats à Colombey, les deux églises, le général de Gaulle. Tout le monde se réclame du général de Gaulle, on va en parler. On va revenir sur cette gauche qui a du mal à imprimer. On en profite tant que Michel Pouzol est là, ainsi que Jean-Luc Benamias pour évoquer ce sujet. On va parler de l'intervention, alors parler ou pas parler de l'intervention d'Emmanuel Macron, parce que moi je supporte pas ces plateaux, on dit que va-t-il dire ? On n'en sait rien de ce qu'il va dire, on verra bien, mais pourquoi prend-il... On peut poser la question de savoir pourquoi prend-il la parole ? Et puis, faut-il obliger les plus de 65 ans à un examen médical pour garder leur permis de conduire ? Certains évoquent même la possibilité de leur faire repasser. On va voir si on a le temps d'évoquer tous ces sujets. Allez, on commence...
Luc, à quel âge ?
66.
Jean-Luc, coup de cœur pour... On commence avec un coup de cœur pour vous. Voilà. Alors.
Bah, c'est un coup de cœur, ça s'entend. Ouais. C'est les 50 ans de l'opus, du quatrième opus de Led Zeppelin.
Oui, absolument.
Robert Plant, Jimmy Page. C'est un opus incroyable.
Ouais.
C'est bon, voilà. Alors, ça rentre. Dans la mémoire des énormes groupes rock et de la pop des années 60-70, quoi, voilà. Je citerai pas les autres, mais voilà, j'avais envie de ça. C'est Jimmy Page et Robert Plant, je pense qu'ils ont près de 80 berges,
ouais.
Continuent encore à jouer, c'est incroyable.
Ouais. Moi, j'ai eu la chance de croiser Jimmy Page il y a 4 ans,
Non,
j'ai fait une photo avec lui, j'étais très, très, très fan. Alors, même amoureuse d'eux quand ils étaient jeunes, alors après, avec l'âge, ça se gâte un peu. Mais ils chantent encore, hein.
Et ils publient, c'est-à-dire qu'ils font encore des... Comme on est revenu au vinyle, on peut dire vinyle, hein,
C'est vintage. Alors moi, j'avais un coup de cœur un petit peu différent. Vous voyez, je suis un petit peu plus jeune que vous, mais il est un petit peu plus classique, mon coup de cœur, écoutez.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur,
les,
on
chemins,
partait
sur les chemins,
à bicyclette.
Il y avait Francis et Sébastien.
Qu'est-ce qu'ils chantent derrière ?
Et puis Paulette. Nous étions tous amoureux d'elle. Elle nous laissait pousser les ailes.
Allez, on continue ?
À bicyclette.
Ah bon, alors je vois que mon coup de cœur vous plaît plus que celui de Jean-Luc Benamias.
Ah bah, il est plus facile à chanter, hein.
Oui, certes, mais bon, c'est aujourd'hui, il y a 30
pas que,
ans.
Pas que.
Il y a 30 ans, Yves Montand disparaissait. C'est l'anniversaire de sa mort. Et voilà, je voulais avoir une pensée pour Yves Montand qui est toujours là et on voit que ses chansons nous font toujours. Ça vous parle quand même, Mathis ?
Un petit peu.
Led Zeppelin plus ?
Autant,
d'accord, pas plus.
Mais j'écoute hein, souvent en vacances avec des amis quand même.
La préhistoire.
Mais alors, Yves, vous étiez un grand fan d'Yves Montand ?
Oui, un grand fan, et notamment de la bicyclette. J'ai été maire de Sauveterre de Guyane pendant 12 ans, et chaque année, au repas de l'atelier créatif, avec Michel Etcheverry, l'orchestre de Michel Etcheverry m'appelait et me disait « Monsieur le maire, il est temps de chanter la bicyclette
». Ah bah écoutez, voilà. J'ai demandé un peu au hasard, parce qu'il y avait plein de chansons d'Yves Montand qu'on aurait pu évoquer. Stéphane nous dit « Aucun politique s'est référé à Yves Montand ». Non, ça c'est sûr. Allez, on continue avec coup de cœur pour vous, Yves. Restons dans les coups de cœur.
Mon coup de cœur, c'est l'amérissage de Thomas Pesquet cette nuit au large de la Floride, et les 6 mois qu'il a passé dans la station orbitale, les 200 expériences qu'il a réalisées pour l'Agence européenne de l'espace. Mmh. Et puis cette nuit, il est rentré dans l'atmosphère, il est passé de 28 000 km/h à 600 km/h avant de s'embraser. Enfin, tout ça est très impressionnant. Et la science avance. Moi, je pense que la science, c'est important, que les expériences que l'on fait sont importantes, que comprendre l'histoire de l'univers, l'histoire de la planète, l'histoire du monde, tout ça, c'est important et que plus ouais. la science avance, plus on avance tous ensemble. Voilà. Ouais.
Donc, vous êtes admiratif de cette performance de Thomas Pesquet, qui n'a pas fini, hein, puisqu'il va être sous observation pour voir comment son corps a réagi à ce séjour dans l'espace.
Et potentiellement un des prochains astronautes français, en tout cas, à partir pour la Lune, puisque les prochaines missions sont pour la Lune et qu'il y a 3 places qui sont réservées aux astronautes européens et qui donc cochent toutes les cases. Voilà. Donc peut-être qu'il va nous faire encore rêver, peut-être avec moins de photos, mais plus d'inconnus encore.
Ouais. Mathis, ça vous
j'ai un petit... Ouais. Ouais, pardon, juste, je voudrais ouais. ajouter qu'il se trouve que moi, je descends d'un pionnier qui s'appelait Gustave Damécourt, comme moi, et qui, ouais. en 1861... a inventé un petit appareil qu'il avait appelé le premier hélicoptère. Ils avaient créé avec Jules Verne et Victor Hugo la Société française pour la navigation à l'aide du plus lourd que l'air. À l'époque, Led Zeppelin, le ballon n'existait pas. Et Jules Verne avait consacré un roman à cette aventure qui s'appelle Robur le Conquérant. Oui. Et Robur le Conquérant, devant le Weldon Institute de New York, explique que si on volera un jour, c'est grâce au plus lourd que l'air et pas au plus léger que l'air. Et il dit même dans son discours, je ferai mieux que Damécourt. Donc vous voyez, c'est amusant.
C'est tout à fait amusant. Ça vous parle, Mathis, la conquête de l'espace ?
Ah bah oui, parce ouais. que c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui extrêmement important, parce que ouais. ça donne un peu rêver aux
ouais.
gens.
Ouais.
Après, il y a
toujours un exploit. Hein.
C'est toujours un exploit, et je me désole un petit peu parfois qu'il y ait sous couvert parfois de postures idéologiques relatives à l'écologie, on veuille tout simplement arrêter d'envoyer des fusées parce qu'il ouais. y a aussi sûrement des solutions qui se trouvent sur d'autres planètes.
Ouais. Donc, absolument. Allez, on marque une pause. J'aime bien ce début d'émission un peu joyeux où on parle d'autre chose que de politique. Mais hélas, nous allons replonger dans le grand bain dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Les débats avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio avec Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Michel Pouzol, ancien député, membre de Génération, Mathis Brasca, vous êtes étudiant en sciences politiques, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, ancien candidat à la présidence de la République, on peut le dire.
J'ai participé à des primaires, il semble bien.
Voilà, absolument. Pourquoi la gauche ne décolle pas ? Peut-être que vous pourrez nous répondre. On sent un enthousiasme assez modéré d'une partie des sympathisants de gauche. On va évoquer la prise de parole d'Emmanuel Macron ce soir. Le permis des plus de 65 ans pose problème, pose question. Est-ce qu'il faut les obliger à un examen médical ? Et puis tout le monde a colombé les deux églises, droite, gauche, centre, écolo, tout le monde veut s'associer au général de Gaulle. On continue notre tour de table avec ce qui a retenu votre attention. On a été dans les coups de cœur, dans le feel good dans la première partie. Là, on va passer au coup de gueule avec vous, Michel Pouzol.
Oui, alors moi, je voudrais d'abord dire en préambule que je ne fais pas partie de ceux qui mettent au même niveau les souffrances animales et les souffrances humaines. Et voilà, je suis même pas par principe contre la chasse, parce que je pense qu'il faut peut-être réguler, mais en tout cas, je ne fais pas ce principe-là. Par contre, il y a quelque chose que je trouve totalement inacceptable, qui a fait la une d'actualité il y a quelques jours. C'est vous savez, ces parcs privés où on peut venir, moyennant 2000 euros, tirer une biche à 2 mètres ou un sanglier. Enfin, vous choisissez l'animal, vous arrivez dans le parc fermé et puis vous le tirez. Je trouve que c'est une... Alors là, pour le coup, je veux bien voir l'aspect sportif de la chasse. Moi, j'ai connu ça au Canada, où des mecs bourrés arrivaient en 4x4 le samedi soir pour tirer des orignanes. Alors, c'est beau, hein,
les orignaux,
c'est grand. Les orignaux, on disait, oui. C'est à peu près aussi sportif que de tuer une vache.
Ouais. Voilà, enfin, c'est un peu ce qui se pratique chose. Aujourd'hui dans beaucoup de chasses aussi. Alors, on est obligé de taper du pied pour que les faisans s'envolent.
Mais voilà, je pense que ce genre de... Alors là, par contre, les chasseurs auraient tout intérêt à éradiquer ce genre de choses. Je trouve que c'est scandaleux, c'est ridicule, et ça ne ne sert pas à leur cause, à mon avis, du tout. C'est, voilà, je suis... Ouais. Au moment où on va arrêter les animaux dans les cirques et les dauphins, les mammifères dans les delphinariums, je pense qu'on pourrait aussi arrêter ces espèces d'élevage en batterie où les gens viennent tirer à 2 mètres des animaux qui ne bougent pas.
C'est nouveau, c'est quoi l'actualité par rapport à ça?
C'est qu'il y en a un qui s'est ouvert, je crois, assez important. Donc,
dans les Hautes-Pyrénées, voilà. C'est ça, oui. Non, c'est pas ça, je ne sais pas, mais en tout cas...
Il y en a plusieurs
qui se créent, donc je pense que vous avez raison de...
Oui, et puis il y a quelque chose d'un peu de malsain, j'ai l'impression de tout vouloir transformer finalement des abattoirs à ciel ouvert en centre de divertissement où on vient en famille.
Mmh. Oui, non,
c'est pas vraiment dans l'air du temps,
je pense. C'est assez lamentable. Mathis, vous, c'est un coup de gueule?
Moi, c'est un coup de gueule, depuis quelques temps, on commence à entendre le discours de la décroissance, notamment chez une partie de la gauche, qui a un discours qui voudrait dire qu'il faudrait arrêter finalement de produire, ou produire beaucoup moins, pour sauver la planète. Et c'est un discours qui, selon moi, est à la fois antisocial et qui pollue aujourd'hui le débat de l'écologie. Donc, il y a quelques temps, là, c'était quoi? Il y a 2 jours, j'ai vu sur Twitter Sandrine Rousseau s'exprimer à nouveau sur la décroissance. Je sais qu'aujourd'hui, tous les écologistes ne se réclament pas de la décroissance. Et elle a dit voilà, que elle, ce qu'elle croyait, c'était pas au pouvoir d'achat, c'était au pouvoir d'être heureux. Alors, moi, je trouve que c'est très bien. Moi aussi, j'ai envie d'être heureux. Mais lorsque je vois ça, je me dis qu'il faut passer quand même à côté pour comprendre que pouvoir acheter des biens ou des services, ça contribue au bonheur aujourd'hui dans notre société. Mmh. Et que vouloir taper au portefeuille des personnes les plus précaires avec des augmentations des taxes, par exemple, sur l'essence, etc., c'est pas quelque chose qui va rendre aujourd'hui l'écologie populaire et qui va séduire le plus grand nombre. Mmh. Or, aujourd'hui, il y a une urgence et on va avoir besoin de production aussi bien par exemple, de voitures électriques ou d'innovation, de techniques, si on veut aujourd'hui faire face aux défis climatiques. Et malheureusement, j'ai l'impression que, une fois de plus, ça vient un petit peu polluer le débat de l'écologie, alors qu'au contraire, déjà qu'on a des gouvernements qui ne sont pas très légitimes, s'ils veulent être légitimes dans leur action, il faut qu'ils s'adressent au plus grand nombre, et au plus grand nombre, c'est aussi les classes populaires qui sont une fois de plus abandonnées dans ces discours écologistes.
Mais la décroissance, c'est un discours qu'on peut entendre, consommer moins pour préserver la planète.
À décroissance, moi...
Acheter moins.
Mais moi, je suis d'accord, acheter moins, etc.
C'est dans ce sens-là aussi, la décroissance.
C'est dans ce sens-là, etc. Mais il y a aussi une vraie volonté, on va dire plus poussée, idéologique, économique de la décroissance, qui là, en fait, est une récession dont on accepterait tout sourire. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut, consommer moins, il faut consommer mieux. On a tous énormément de choses à faire pour la planète. Les gouvernements ne font pas assez actuellement, on est d'accord. Mais la décroissance, parfois, c'est quelque chose qui est un petit peu abusif. Moi, je préférerais, par exemple, parler de Made in France.
Moi, je pense qu'il faut, revenir sur le thème de la décroissance. C'est pas de dire la décroissance à tout prix, c'est changer de croissance. C'est ça, la vérité. C'est de pousser aux filières vertes, à une croissance écologiste. Et là, il y a des réservoirs de croissance, effectivement, assez importants. Et effectivement, il y a toute une part de l'industrie mondiale qui doit entrer en décroissance, qui entre, d'ailleurs, de fait, déjà en décroissance. C'est ça, c'est ce rééquilibrage-là qui est extrêmement important. Parce que si demain nous continuions dans la même logique partout sur la planète, aujourd'hui il faudrait 2,5 fois la planète, je crois, pour vivre comme un Américain ou comme un Français. Si ça se passe en Chine ou au Brésil, le réchauffement climatique c'est 3-4. Et donc là, la décroissance sera de fait ce qui arrivera. C'est-à-dire c'est l'horizon absolu, mais une décroissance subie. Catastrophique et qui va laisser plein de gens sur le bord là-haut. Donc c'est différent, c'est un choix à faire maintenant. Moi, je ne suis pas pour une décroissance dans tous les sens et de manière non réfléchie, mais je pense que ceux qui parlent de décroissance réfléchissent aussi, pour la plupart, à la manière dont on peut le faire. Mais c'est surtout, ça passe par la mise en avant des économies vertes, des économies éco-responsables. Et ça, c'est fondamental. Il faut arrêter l'industrie du charbon, il faut arrêter certaines industries comme ça, qui sont effectivement extrêmement nocives pour la planète, les terres rares, les choses comme ça. Les voitures électriques posent des problèmes également. Il faut bien qu'on s'attaque au problème. D'accord. Parce que votre génération, on écoutera Led Zeppelin jusqu'au bout, mais votre génération aura des réveils beaucoup plus difficiles que les nôtres.
Mais du coup, vous êtes pour, par exemple, le maintien du nucléaire ou au niveau de la croissance, parce qu'il faut une croissance énergétique pour accompagner ces changements.
Je pense que c'est une question qui mérite un long débat. Moi, j'ai jamais été vraiment en partisan du nucléaire. Je regrette qu'on n'ait pas fait les changements plus tôt sur les énergies renouvelables. Et en tout cas, il faut mettre le paquet d'abord sur les énergies renouvelables. C'est vraiment le sens de l'histoire.
Bon, Stéphane nous dit, mais tout ne dépend pas de nous, mais des industriels. On n'achète pas ce qui n'existe pas, donc aux industriels de ne pas produire aussi. Oui, Jean-Luc, vous vouliez réagir ?
Un petit peu, oui, quand même. Cette idée de décroissance n'est pas une idée qui sort aujourd'hui chez les écologistes. C'est depuis le démarrage de l'écologie politique dans les années 60 que le débat a commencé sur quelle décroissance faut-il mettre en place. Je prends la campagne de René Dumont au présidentiel en 1974. Oh, oui. Il est bien sur un discours sur la décroissance, sur la gestion de l'eau, la gestion des produits naturels, et ainsi de suite. Je vais pas plus loin. Donc après ça, évidemment que dans la société, on peut pas tout mettre en décroissance. Mais le problème, pour moi, c'est le problème de se dire la croissance est infinie. Et à chaque fois qu'on emploie majoritairement dans les milieux politiques ou économiques cette idée de croissance infinie, non, il y a un mur à un moment donné. Et ce mur, on l'a atteint. Ouais. On l'a atteint puisque la planète, à un moment donné, est surexploitée. Donc, tout le débat est de savoir, fondamentalement, quand on est écolo et qu'on s'adresse aux classes populaires notamment, c'est ce qu'on met en décroissance et ce qu'on laisse en croissance.
Ouais. On a des réactions sur la chasse. Je ne vous ai pas fait réagir, Yves Damécourt. Beaucoup de gens, évidemment, n'aiment pas ce que vous avez dit. Michel Pouzol, Julien vous invite même. Il vous dit que vous avez des avis caricaturaux. Alors, je précise que ce sont sur ces chasses, sur ces parcs animaliers. Yves Damécourt, vous en avez entendu parler ?
Alors, moi, je voudrais qu'on évite d'avoir un raisonnement global sur ce sujet-là. Il y a aujourd'hui des parcs qui fonctionnent comme des écosystèmes avec une régulation, etc. On a un problème aujourd'hui en France, c'est l'augmentation des grands gibiers, des sangliers, des cervidés. En 20 ans, les populations ont énormément augmenté. Et donc aujourd'hui, on a un problème de culture, d'agriculture, de sylviculture, puisqu'en fait, si on ne régule pas les populations des sangliers, des cerfs, des chevreuils, moi, quand j'étais enfant, on avait un ou deux bracelets de chevreuil par an sur une surface de 1000 hectares. Aujourd'hui, sur la même surface de 1000 hectares, on a 50, 60, 70, 80 bracelets de chevreuil. Il y a des chevreuils partout. Aujourd'hui, il y a 40 000 collisions. Il y a encore, avant-hier, il y a un motard qui est aujourd'hui entre la vie et la mort parce qu'il a eu une collision avec 8 sangliers sur une route de campagne. Et donc, il faut protéger les agriculteurs des dégâts que peuvent faire les sangliers, notamment. Il faut protéger les sylviculteurs des dégâts que peuvent faire les cerfs.
Mais ce n'est pas, pas ce que...
Oui, je suis d'accord. Mais ce n'est pas dans les certaines régions qu'on va trouver ces problèmes-là.
Il y a certaines régions où la solution qui a été trouvée pour protéger les exploitations agricoles de la recrudescence des cerfs, c'était d'entourer les forêts. Et donc, une fois qu'on a entouré la forêt, les cerfs se multiplient dans les forêts et donc il faut trouver des solutions pour les réguler.
Mais de toute façon, quand on regarde les chiffres de la chasse, les gros gibiers sont finalement pas les animaux les plus chassés. Mmh. Aujourd'hui, il y a chaque année des millions d'animaux qui sont élevés souvent dans des enclos fermés, qui sont relâchés uniquement en période de chasse pour qu'on puisse aller les chasser.
Pourquoi ? Parce que
c'est devenu aussi, on va dire, une économie qui est tout à fait importante et qui se chiffre à plusieurs
millions. Le lâcher de grand gibier est interdit.
Lâcher de petits gibiers, du coup.
Et de petits gibiers, parce qu'on a un auditeur qui nous dit que chez lui, on lâche des perdrix la nuit pour ne pas être vu. Le petit gibier, c'est autorisé ?
Oui, on peut lâcher du petit gibier. Et il y a des régions de France où la réintroduction du perdreau et du faisan s'est faite grâce aux chasseurs, parce qu'il n'y avait plus de perdreaux et plus de faisan. Et c'est grâce au lâcher des chasseurs. Et alors après ça, il est préférable d'avoir des volières anglaises, c'est-à-dire des clos de quelques dizaines d'hectares où on tue les nuisibles pour permettre aux perdreaux et aux faisans de se reproduire. Et donc tout ça, il faut lutter contre les gens qui sont des gougnafiers et qui fonctionnent contre nature. Et puis, il faut encourager les bonnes pratiques. Ouais, donc tout ça progresse. Il faut savoir que la faune évolue aussi. Et donc, il faut s'adapter aux nouvelles conditions.
Ouais. Il faut aussi, Jean-Luc, si je peux me permettre. Tout ça vient, Yves, tu vas me dire si je me trompe, de la désertification rurale, du fait qu'il y ait de moins en moins d'agriculteurs, de gens qui travaillent la terre. Et donc, des grands, il y a des grandes propriétés, c'est comme ça. Mais à ce niveau-là, il y a des espaces dans les territoires maintenant qui sont évidemment totalement redevenus naturels. Et donc, ça prolifère. Et j'ai provoqué, même si je ne suis pas un défenseur de la chasse, c'est pas moi le prioritaire, hein. c'est pas vraiment prioritaire pour moi, loin de là. Mais il y a des espaces où il n'y a pas assez de chasseurs. Ouais, on n'arrive même pas à réguler. Bon, par rapport à ce que vous venez de dire, Yves,
c'est-à-dire c'est la vérité, oui.
Laisser vider et les sangliers.
Ah, je suis d'accord.
On est vraiment dans un espace où, effectivement, moi, je qui roule souvent en campagne, hein, j'ai cette chance-là de temps en temps, il y a 30 ans, je ne faisais pas attention quand je circulais à l'heure où les animaux vont boire.
Mais 20 millions, c'est le nombre d'animaux qui sont élevés puis rechassés en France chaque année. Donc, c'est pas rien.
Julien nous dit que ces parcs de chasse sont fréquentés par des très très riches pour les trophées, très très peu par de vrais chasseurs. Mais bon, on a le droit aussi, comme vous le faites, de dénoncer ces parcs-là. Karine, c'est un sujet qui vous préoccupe, hein, qui vous intéresse. En tout cas, Karine nous dit qu'il y a des élevages de sangliers et de faisans qui sont relâchés pour la chasse. Tous les ans, il y a des articles de presse à ce sujet. Alors, je ne sais pas si on élève les sangliers. Je ne suis pas sûre qu'il y ait c'est plutôt l'inverse. Mais les faisans, c'est sûr. Allez, on marque une pause. On se retrouve dans un instant. On va parler politique, de la gauche, du général de Gaulle, d'Emmanuel Macron. Tout ça dans le désordre et sans lien.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Allez, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec Yves Damécourt, Michel Pouzol, Mathis Brasca et Jean-Luc Benamias. Je voulais, avant qu'on entame nos débats, faire un coup de chapeau à ces femmes qui aujourd'hui témoignent dans Libération, qui parlent de la façon dont Patrick Poivre d'Arvor les a agressées. C'est lui qui a relancé, c'est ce que raconte Libération, c'est lui qui a un petit peu relancé cette affaire, puisque sur le plateau de l'émission Quotidien, il avait dit oui, il n'y a que des femmes anonymes qui m'accusent, aucun intérêt, etc. Et ben voilà, elles ont décidé de parler. Ce sont des femmes qui racontent ce qui leur est arrivé et ce qui est glaçant dans ce que révèle Libération, dans ce que révèlent ces témoignages, c'est que le mode opératoire, le processus est pratiquement toujours le même. C'est-à-dire une espèce de violence, d'agression assez soudaine. Et puis elles décrivent aussi un Patrick Poivre d'Arvor comme beaucoup d'hommes, c'est-à-dire double, humain, gentil. Et c'est vrai que ça va forcément faire réagir parce que certains diront oui, mais elles ont travaillé avec lui, oui, mais il a été gentil avec elles. Oui, bah oui, c'est la complexité de l'âme humaine et les monstres ne sont pas forcément ceux qu'on imagine et les gens ne sont ni noirs ni blancs, mais il y a parfois des choses qui se passent et le courage de ces femmes, bah, c'est pas mal parce qu'elles sont aujourd'hui chefs d'entreprise, elles ont des postes assez haut placés et je trouve que c'est assez courageux de leur part de l'avoir fait. Voilà, c'est dit.
On peut être gentil 24 heures par jour, mais un viol reste un viol.
Absolument.
Et un violeur, un violeur.
Voilà. Oui, mais ça fera sûrement réagir, parce que certaines, malgré le fait d'avoir été agressées, ont travaillé avec lui, mais je pense que l'époque a aussi beaucoup changé et qu'il y a des choses qui se faisaient qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Voilà.
Moi, je voudrais...
Oui,
non, Yves Damécourt. Je voudrais réagir à ça, dire que aujourd'hui, on vit... l'évolution du dossier de la pédophilie dans l'Église. Et je pense que les choses ont été prises dans le bon ordre depuis quelques mois, avec une commission à qui on a confié un rapport, une enquête, etc. Et puis derrière, on rentre dans la suite des événements, avec la réception des plaintes, avec une volonté... d'agir sur la suite. Je pense qu'il y a un certain nombre d'institutions, notamment les institutions de la télévision et du cinéma, qui devraient adopter le même processus pour ce sujet du rapport entre les femmes et les hommes. Donc, prendre le temps, se poser, nommer une commission d'enquête et travailler sur le fond et puis derrière aboutir à un certain nombre de mesures de prise de conscience, de reconnaissance. Voilà, c'est compliqué, Mais je pense qu'il y a un moment ou un autre, il va falloir prendre le sujet dans l'ordre.
Et on pourrait ajouter le monde sportif.
Un auditeur, Olivier, nous dit présomption d'innocence, non, ou condamnation médiatique. Oui, présomption d'innocence, mais elles veulent relancer cette affaire. Il y a une nouvelle plainte qui va être déposée. Quand on a 9 témoignages qui décrivent de femmes qui ne se connaissent pas et qui décrivent la même chose, certes, la justice doit passer, certes, il y a la présomption d'innocence. Il n'en reste pas moins que ce sont des témoignages. Donc, il n'a qu'à attaquer, porter plainte pour diffamation. C'est ce qu'avait fait Nicolas Hulot, et je vous rappelle qu'il a retiré sa plainte en disant qu'il ne laisserait pas salir son honneur. Néanmoins, il n'est pas allé au bout de sa plainte. Donc, on voit que c'est parfois compliqué quand on se drape dans la vertu et l'indignation, mais qu'on ne poursuit pas réellement les auteurs. C'est peut-être aussi qu'il y a parfois des choses à perdre. Mathilde, vous vouliez dire un mot ?
Non, j'avais juste envie de dire que c'était un peu une touche. C'est assez intéressant, c'est qu'il y a, là on parlait de Libération, et Libération juste avant pour le scandale, parce que là on a dans toutes les institutions voilà, des scandales, l'omerta qui se lève vis-à-vis des viols. Libération avait titré que le premier miracle de Lourdes, c'était pour l'Église d'avoir reconnu ces affaires de pédocriminalité. Et effectivement, peut-être qu'on est en une période où on a un petit peu des miracles, et il faut souvenir de toute façon la prise de parole, même si on comprend le débat que pose le tribunal médiatique. Oui, parfois, oui, c'est une manière de relancer des affaires.
C'est une vraie question. Mais le dossier, franchement, lisez-le, est assez terrible. Un mot, Jean-Luc ?
J'entends parler de tribunal médiatique, mais quand il s'agit de personnalités de médias, et Michel vient de le dire, c'est arrivé aussi dans le monde sportif, des journalistes sportifs, on l'a vu, mais aussi dans le monde sportif, des entraîneurs qui entraînaient des jeunes sportifs, et souvent des jeunes femmes, mais pas uniquement. Je pense qu'effectivement... le terme de tribunal médiatique n'est pas le bon.
Oui. Voilà. Absolument. Pourquoi la gauche ne décolle pas ? Tiens, on va commencer avec, avec ce thème, peut-être. Selon l'IFOP, aucun des prétendants de gauche, de Jean-Luc Mélenchon à Anne Hidalgo, ne parvient à se hisser au-dessus des 10% d'intention de vote au sein de cet électorat. Jean-Luc Mélenchon est le candidat de gauche qui tout de même séduit le plus. 9% des intentions de vote. Yannick Jadot, il plafonne à 7%. Anne Hidalgo s'écrase, je crois que le terme est exact, à 2%. Des scores qui sont quand même dramatiques. Enfin, pour vous qui êtes Michel Pouzol, qui avait été au PS, Génération...
Qui fut quelqu'un de gauche, viscéralement, oui, on va dire. Voilà. Qui a été d'abord très longtemps un électeur avant d'être un militant.
On peut dire que c'est un désastre. Cela dit, il y en a autant pour la droite.
Je vais remettre en perspective l'étendue du désastre, si vous me le permettez une seconde. En 2012, quand François Hollande arrive à la présidence de la République de manière un peu surprenante, parce que ce n'était pas gagné dès le départ, la gauche... détenait tous les pouvoirs dans ce pays. Pour la première fois, elle détenait le Sénat, la majorité absolue à l'Assemblée nationale, la plupart des régions, la majorité des départements et des grandes villes. Quel bilan, 10 ans après. Moi, je pense qu'on paye... On paye en beaucoup ce quinquennat-là où les Français n'ont... où on est passé de « mon ennemi, c'est la finance » à quelque chose qui était totalement à l'opposé de ça. Je pense que c'est aussi ce quinquennat qui a créé Emmanuel Macron, et y compris avec des stratégies politiques, il y a plusieurs bandes comme la gauche savait le faire. Et aussi, il y a une déconnexion énorme avec les préoccupations des gens. Enfin, on voit bien que la gauche a cessé de parler. Enfin, cette partie de la gauche, en tout cas... social-démocrate a cessé de parler aux classes les plus populaires. Enfin, moi, j'étais le seul député sorti du RMI à l'Assemblée nationale. Je vois bien le mal qu'on avait à faire passer certaines idées. Je suis en train d'écrire un livre sur la pauvreté, justement, où je décris certains des processus de loi, comment ils ont été créés sous la gauche, et en gros, en n'allant pas au bout de ce qu'il fallait faire pour les gens qui étaient dans la grande difficulté. Donc, on ne parle plus à ces gens-là. On ne parle plus vraiment non plus dans les quartiers, il faut bien le dire. Donc, à qui parle-t-on à un moment donné ? C'est-à-dire, plus à un électorat de fond. Les fonctionnaires n'ont pas vu la différence entre la gauche et la droite, voire leur situation ne s'est pas améliorée. Donc, c'était aussi un noyau dur du vote de gauche. Donc, effectivement, les électeurs de gauche, moi, je peux comprendre qu'ils se sentent orphelins. Et puis... L'autre aspect, je dirais, c'est que si tout le monde est convaincu que l'écologie est le sujet fondamental du moment et de demain, tout le monde le récupère à sa manière, sans d'ailleurs l'être toujours, Et par contre, on a beaucoup de mal à faire passer l'idée que l'écologie est aussi un sujet politique. Oui. Et donc, on voit bien que, même s'il y a des frémissements, l'écologie politique qu'on porte a du mal encore à franchir un petit plafond de verre, même si je pense que cette campagne, en mettant au cœur des préoccupations des Français ces sujets-là, va nous permettre d'avancer un peu. Mais nous n'irons pas très loin si nous ne reprenons pas aussi la dimension sociale. Enfin, on est dans un pays où il y a 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Où travailler pour plusieurs millions de personnes, travailler ne suffit pas à vivre décemment. D'ailleurs, comment se fait-il que nous ne parlions pas midi, matin et soir de ces sujets-là qui concernent la population? Il y a de plus en plus de gens de classe moyenne qui se sentent au bord du déclassement. Oui. Et la gauche n'arrive plus à parler à ces gens-là. Moi, j'avoue que ça me désespère, je me bats, mais ça me désespère.
Et Éric Zemmour qui va aussi prendre des électeurs sur la gauche. On va marquer une pause et vous pourrez réagir les uns et les autres et nous appeler aussi 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec vous, on va parler de Colombey, les deux églises, 51e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Oui. Tout le monde va se précipiter là-bas. Mais avant, on parlait de la gauche qui stagne, qui ne décolle pas dans les sondages, qui voire s'effondre avec Anne Hidalgo qui ne dépasse pas les 2%. Mathis Brasca, vous vouliez répondre à ce que disait Michel Pouzol sur le fait que la gauche aujourd'hui n'a pas su trouver les mots ni parler aux Français, et moins avec un autre Montebourg qui était, on pourra en dire un mot.
Très concrètement, en fait, aujourd'hui, on a une gauche qui a tendance à opposer la lutte contre le réchauffement climatique, l'urgence écologique et l'urgence sociale. Parce qu'ils n'arrivent pas à proposer des choses qui concernent directement les gens pour vendre le projet écologiste. Oui. Anne Hidalgo, c'est exactement ça. Quand elle fait des vidéos où elle explique, où elle se plaint qu'il y ait des machines qui distribuent des tickets dans la gare, on voit qu'elle est totalement à côté de la préoccupation des Français.
Oui, complètement. Marie nous dit, une auditrice, mais si à longueur de journée vous parlez et dites toujours les mêmes choses et rien n'a bougé depuis des décennies, droite-gauche, c'est bonnet blanc et blanc-bonnet, on en a marre des politiciens à qui la politique ne profite qu'à eux-mêmes et à leur entourage. Il y a toujours cette défiance aujourd'hui sur les politiques classiques, ce qui explique aussi le succès, encore une fois, d'Éric Zemmour. Jean-Luc Benalias. Oh, c'est intéressant ce lapsus. Je regardais vos messages, donc j'ai... Alors, Jean-Luc Benalias.
Clairement, on subit dans notre pays, un peu à l'image de l'Italie d'ailleurs, un schéma de décomposition des mouvements politiques démocratiques qui n'a pas de fin. Regardez le nombre de candidats et de candidates de gauche qui essayent de se présenter à la présidentielle. Évidemment, ça ne donne pas beaucoup d'espérance, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, il y a une initiative qui existe en France, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle prend tout ça par le bon bout, qui s'appelle la primaire populaire, qui essaye de demander aux candidates et aux candidats de gauche, qui sont entre 4, 5, 6, 7, 8, 9 % non, ça démarre à 2 d'ailleurs pour Roussel, d'essayer de se mettre à peu près d'accord sur un programme minimum commun ou maximum commun. Redonner un peu d'espoir. Après, le fond de décomposition ne vient pas de nulle part. Hein. Le social-libéralisme a été imposé, s'est imposé malheureusement, dans l'ensemble des démocraties. Et c'est un schéma qui effectivement ne donne pas beaucoup de réponses et pas beaucoup d'espoir dans ce qu'on appelle le ou les peuples de gauche, sur lequel je rajoute maintenant une bonne partie de l'écologie politique. Oui. Est-ce qu'on va en sortir dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent? J'en sais rien, mais c'est indispensable parce que je dirais la même chose d'ailleurs de la droite démocratique, hein, qui se retrouve dans un schéma extrêmement difficile, parce que le phénomène Zemmour s'explique aussi du côté droite et du côté gauche, hein, pas uniquement du côté gauche. Il y a de la désespérance. Il y a même, on est dans un pays où quand même les tensions sociales, sociétales sont absolument gigantesques.
Oui, mais alors pourquoi la gauche aujourd'hui ne représente pas la solution pour les classes populaires?
Parce qu'elle est terriblement divisée et qu'elle a oublié en grande partie, on le voit dans les cités qui existent dans toutes les villes de France, on ne s'est pas occupé de la pauvreté. Non. On ne s'est pas occupé de tout cela. On a laissé des cités dégradées au fur et à mesure. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date des années 70.
Oui, mais effectivement, rien n'est fait, rien n'a été fait. Et la sécurité aussi, qui est le thème qui revient et qui est aujourd'hui au centre du débat. C'est ça aussi la question. Moi, je discutais hier avec un ami qui habite en région parisienne, sur Rennes, qui n'est pas une banlieue particulièrement pauvre. Il y a des HLM, il habite dans un HLM. Et il me dit qu'il y a une famille qui pourrit tout l'immeuble. Ouais. Les mecs, ils rentrent à moto dans le hall, ils fument leur shit, personne ne fait rien. On appelle les flics, ils ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas d'ennuis. Ils appellent le bailleur social qui dit oui, mais vous savez, gna gna gna. Il ne se passe rien. Donc, comment voulez-vous que ces gens-là aient confiance aussi dans les politiques ? Rien n'a été fait. Donc, faut pas s'étonner après de ce qui se passe.
Lorsque la gauche avait tout au pouvoir sous François Hollande pour faire de vraies réformes, ils n'ont pas fait les réformes. Ils ont fait exactement, finalement, ce qu'on a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ils payent un lourd tribut. Et après, moi, j'ai envie de saluer quand même la candidature un petit peu cavalière de Fabien Roussel, qui essaye de mettre la sécurité quand même au cœur de son programme, parce qu'il a compris que les premières victimes aussi
discours, absolument.
De ces incivilités, alors, c'était les classes
Yves,
populaires.
Yves Damécourt, vous êtes plutôt, vous situez plutôt sur le plan de la ruralité, mais c'est pareil aussi, il y a des classes populaires qui ne votent pas non plus à gauche, qui ne votent plus à gauche en ruralité.
En fait, dans la ruralité, il y a beaucoup de gens de gauche aujourd'hui qui se réfugient au Rassemblement National. Moi, je suis dans un territoire qui était très à gauche, avec une cellule communiste très forte, et aujourd'hui, les gens qui étaient autrefois, on voit que les villages où les communistes étaient très, très, très présents, notamment dans la vallée de la Garonne, aujourd'hui, c'est des territoires qui votent beaucoup Rassemblement national
oui,
au premier tour. Et donc, en fait, il y a une archipélisation des candidatures. Là, il y en a dans tous les sens. Et puis, il y a un manque de travail criant. Hein. Alors, moi, je fais ce reproche à droite et à gauche. Un manque de travail, parce qu'en fait, si vous voulez à un moment ou à un autre recréer l'union et recréer une communauté d'objectifs, il faut travailler sur le fond. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on est passé dans un système où il y a beaucoup de marketing, beaucoup de petites phrases, beaucoup de choses, de buzz, mais en fait, il n'y a plus de travail de fond.
Non.
Et donc, tant qu'il n'y a pas ce travail de fond, il n'y aura pas ni l'union de la gauche d'un côté, ni l'union de la droite de l'autre. Et s'il n'y a pas deux équipes, il n'y a pas de débat. Et s'il n'y a pas de débat, il n'y a plus de démocratie. Enfin, moi, je trouve ça très dangereux d'avoir le sentiment que tout le monde est pareil. Et parce que, on ne dispute pas un match de foot avec une seule équipe. Ça ne marche pas. Même si je prends les meilleurs de chaque équipe et que je les mets sur le terrain, il n'y a pas de match. Donc, moi, je pense que le match, c'est important et que la démocratie, elle naît de la différence, elle naît de la diversité et elle naît du travail.
Non, mais c'est sûr. Mais on peut faire une incise sur le cas Montebourg. Montebourg, qui est plutôt à gauche, même. Enfin, il était au Parti Socialiste à une époque, non ? Si je ne m'abuse.
Oui, bien sûr.
Qui a évoqué donc ce sujet d'empêcher les personnes, les délinquants. Hein, il parlait quand même que des délinquants.
Non, il parlait des personnes qui ont
aux frontières, qui sont en principe des délinquants.
Pas forcément, ça peut être des
oui,
des,
ou des gens qui n'ont pas de permis de séjour.
Absolument. Voilà,
et donc, il proposait que cet argent ne puisse plus partir à l'étranger. Donc, il a perdu les jeunes avec Montebourg, qui ont supprimé leur compte ce matin. Et on voit quand même qu'on a un peu l'impression d'avoir un canard sans tête, d'avoir quelqu'un qui court dans tous les sens. Oui, Mathis.
Après, il faut faire très attention avec Twitter, parce que Twitter, c'est un pouvoir énorme. Et pour avoir participé à des comptes Twitter avant un peu médiatique, etc. Il suffit que quelqu'un ait envie de salir une image pour qu'il supprime le truc s'il a tous les comptes pour lui et si personne d'autre n'a la possibilité de garder le compte Twitter. Donc voir un compte Twitter offert un communiqué puis ensuite être supprimé, ils auraient pu faire un communiqué et demander à Montebourg des comptes. Ça montre que ça peut être aussi un coup politique. On ne sait pas. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui roule pour LFI ou pour un autre parti et qui s'est emparé du Twitter.
Mais ce qui est terrible dans l'affaire Montebourg, quelque part, c'est que Arnaud de Montebourg, on peut lui prêter beaucoup de défauts, mais certainement pas celui de ne pas être intelligent.
Non.
C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a des idées.
On peut aussi faire des bourdes.
Oui, mais là, on pense que on a une espèce de course au buzz, course à celui qui sera le plus radical sur des sujets effectivement qui ont été souvent délaissés par la gauche, il faut bien le dire. Et le fonds programmatique, le vrai projet pour la société, le vrai projet contre les fractures sociales, notamment, de ce pays, sont laissés de côté, sont abandonnés. Et elles sont abandonnées, vous l'avez dit, souvent à des gens qui l'auraient pris, comme l'extrême droite. Effectivement, il y a des fois, moi j'ai été sidéré dans certains débats où le discours, alors il ne fallait pas gratter trop fort, parce que si on grattait, on voyait bien ce qui se cachait derrière le discours social, mais le discours social était repris, notamment dans le Nord, notamment dans le Sud, par une partie de l'extrême droite, et la gauche était un peu... une certaine partie de la gauche, en tout cas, était un petit peu coincée là-dedans. C'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui lui l'assume, mais on voit bien la difficulté qu'il a à le porter aussi. C'est pas le cas, de Yannick Jadot, qui met l'écologie en même temps que le social, et l'inaudibilité de partis aussi importants que le Parti Socialiste est quand même très inquiettante pour moi.
Myriam, elle nous dit parce que la gauche n'est plus à gauche, elle est devenue libérale et à droite. Marie-Claire est en ligne avec nous, une auditrice. Vous êtes à l'antenne sur Sud Radio, bonjour.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Marie-Claire.
Oui, moi je voulais juste vous dire que oui, il y a un problème. Moi je suis plutôt à droite, je vote plutôt à droite. Mais quand hier j'entendais, je crois que c'est Michel Barnier qui a repris, vous savez, les chiffres de Charles Prats qui dénonce 67 millions d'habitants pour 75 millions d'assurés sociaux. Mais c'est la première fois qu'on entend des politiques reprendre ces données-là. Charles Prats, je vous signale, c'est son deuxième livre, Le cartel des fraudes. Hein. Ouais. Avant, on n'en parlait jamais de ça. Mais ils ne nous disent pas comment ils vont s'attaquer à ça. Si Michel Barnier a évoqué une façon de revoir la chose. Mais tous ces chiffres-là, on n'en parlait pas avant. Moi, je suis de droite. Aujourd'hui, je me dis, je ne voterai pas pour Xavier Bertrand. Parce que Xavier Bertrand a dit, les gens qui me connaissent savent que ce que je dis, je le fais. Et en fait, il est revenu sur sa décision. Et c'était comment il aurait pu penser qu'il pouvait aller tout seul. C'est ça, c'est prendre les Français pour des idiots. Comment pensait-il qu'il pouvait y aller tout seul sans appartenir à un parti. Il allait la financer comment, sa campagne?
Mais vous allez voter pour qui alors?
Eh ben moi aujourd'hui je voterai parce que je voterai ou pour Barnier parce que là je suis à deux doigts de reprendre ma carte au LR pour voter ou pour Barnier ou pour Juvin parce que ces deux hommes qui n'ont pas été Juvin je le connais parce que j'ai travaillé à la Garenne Colombes, je connais ses valeurs, c'est pas un mec qui fait partie du système, voilà. Et c'est inadmissible quand vous voyez que Valérie Pécresse, pourquoi elle veut pas supprimer quand on lui a parlé de supprimer des sénateurs et tout ça, pourquoi elle veut pas, parce que sinon Gérard Larcher va la fusiller quand on voit, mais il faut s'attaquer aux dépenses publiques. Voilà, vous me dites, vous parlez, mais vous savez très bien que quand on voit le livre encore de René Dosière, mais tout ça, on n'en parle jamais.
Il y a une forme de parler vrai aujourd'hui, si on prend le slogan de Sud Radio, de la part des politiques qui se sont rendus compte que c'est encore une fois Éric Zemmour qui a bousculé quand même un petit peu la donne politique. Il a dit des choses qui ont tout de suite marqué les Français. Oui, Jean-Luc.
Il n'est quand même pas très difficile, quand on a des heures et des heures d'antenne, des heures et des heures de médias, de bousculer les choses. Il est en tête sur l'ensemble des schémas de comptabilité en temps de parole.
Je suis d'accord, sauf que si vous disiez, si vous parlez de la recette du bœuf bourguignon, ou s'il parlait, s'il parlait de l'aménagement des trottoirs dans les villes, ou s'il parlait de choses comme celle-là, je suis pas sûr que même avec 2000 heures d'antenne, il ait touché les gens. Enfin, vous pouvez pas déconnecter.
Il parle que d'une seule chose, Éric Zemmour. Oui. Il parle de la haine qu'il a des musulmans. Il ne parle que de ça. Dès qu'on l'interroge sur autre chose, il dit beaucoup de bêtises. J'attends maintenant, et ça va venir, j'en suis sûr et certain, du côté, puisqu'on parlait de De Gaulle juste avant, ces comparaisons entre De Gaulle et Pétain. Mais pour la droite républicaine, c'est impossible.
Lui, il dit peut-être toujours la même chose, mais alors les arguments contre lui, c'est toujours les mêmes. C'est toujours Pétain qu'on ressort.
Il n'a pas arrêté.
Oui.
Il ne cesse. C'est même, pour moi, c'est incroyable, puisque c'est vraiment, c'est contraire à toutes les lois de la République. C'est du négationnisme.
Le mot est peut-être un petit peu fort, mais...
Ah non, pas vraiment. Comparer Pétain à De Gaulle, si c'est pas du négationnisme.
C'est le seul argument qu'on lui oppose.
Il parle que de ça.
Mais il ne parle pas, il parle pas de Pétain tous les jours, il ne parle pas de Pétain dans tous ses discours.
En tout cas, dans le délitement de la droite
mais
et de la gauche.
Mais ce n'est pas ça qui plaît aux Français. Ce n'est pas le fait qu'il parle de Pétain qui fait qu'il est à 17, voire 18% dans les sondages.
La situation actuelle, en tout cas de la droite et de la gauche traditionnelle, elle n'est pas née avec Zemmour, elle est née avec Macron, c'est-à-dire le nini, ni gauche ni droite, qu'il a essayé de vendre aux Français, et qui correspondait à ce qu'une partie des Français voulait entendre. Tout à fait, en disant, on va prendre les meilleurs de chaque côté, et puis on va voir ce que ça donne, on a vu. D'abord, il n'a pas forcément pris les meilleurs de chaque côté, loin de là, si je puis me permettre, mais c'est là où le délitement d'un clivage à peu près classique, avec des nuances, c'est des faits, c'est d'abord là. Et bien entendu, dans ces périodes où les choses sont dans le clair-obscur, naissent les monstres. C'est pas de moi, mais c'est de Gramsci, mais c'est vrai. Voilà,
De toute façon, c'est vrai que quand on regarde finalement Éric Zemmour, il parle toute la journée avec des propos qui peuvent être négationnistes, qui peuvent être des propos qui sont racistes. Moi, je me pose une question, c'est qu'est-ce que fait... Ils sont parmi en cause, et qu'est-ce que fait le garde des Sceaux? Je veux dire, à partir du moment où on a un gouvernement et qu'on a un candidat à la présidentielle qui arrive au second tour avec ces propos-là, pourquoi il n'y a pas une procédure mise pour contester du moins ces mouvements? Pourquoi il n'y a aucune plainte qui est déposée? Rien. Moi, j'ai l'impression que ça sert un petit peu aujourd'hui le gouvernement aussi, cet épouvantail Éric Zemmour. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommageable aussi d'un gouvernement qui se dit républicain.
On va marquer une pause et je vous donne la parole, Yves Damécourt. À tout de suite.
Merci.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, on n'a pas pu traiter tous les sujets qu'on voulait évoquer, mais Yves Damécourt, sur votre analyse, vous, de cette gauche qui ne parle plus aux classes populaires.
Réagir un petit peu à tout ce qui avait été dit sur Éric Zemmour. J'ai parlé d'un grand-père qui avait inventé l'hélicoptère en 1860. J'ai un arrière-grand-père qui était le seul parlementaire compagnon de la Libération qui a voté non au plein pouvoir au maréchal Pétain en juillet 40. Et donc moi, je peux pas cautionner les discours d'Éric Zemmour qui tente de mener une confusion entre Pétain, De Gaulle, etc. Par contre, je refuse le terme de négationnisme qui a été employé. Le négationnisme, c'est autre chose. Et donc, je pense que le débat serait apaisé si on redonnait de la signification aux mots. Et donc, on peut pas traiter quelqu'un de fasciste parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. On peut pas traiter tout de négationnisme, etc. Et donc, il faut vraiment remettre du sens derrière les mots. Sinon, on n'y arrivera pas, parce qu'on n'arrivera pas à débattre. Moi, j'appelle de mes voeux un débat à droite, un débat à gauche, puis une fois que les candidats auront été choisis, un vrai débat pour la présidentielle. Je pense que les Français, ils s'intéresseront de nouveau à l'élection s'il y a un vrai débat et si on est sur le fond des sujets. Ouais. Et donc, c'est ça que j'appelle de mes voeux. Je reconnais juste un mérite à Éric Zemmour, c'est d'avoir enlevé dans la tête des médias l'idée selon laquelle le deuxième tour de l'élection présidentielle était joué d'avance. Ouais. Et donc ça, à mon avis, c'est bon pour le débat. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, rien n'est joué. La gauche peut faire sa mue et tous ces gens-là peuvent de nouveau se rassembler parce que personne ne décolle. Et donc le fait que personne ne décolle, ça va peut-être les pousser à s'organiser. La droite est en train, semble-t-il, de le faire, même si pour moi, je pense que sur ça, c'est quand même très, très tard, parce que le travail, c'est pas en 3 semaines qu'on travaille, ça doit être un long processus.
Vous avez regardé le débat hier soir, DLR, parce qu'effectivement, Michel Pouzol faisait remarquer qu'on n'en parlait pas ce matin. Je dois vous avouer que moi, j'ai pas tenu. j'ai trouvé ça d'un ennui absolu. Vous l'avez regardé, vous, Yves ?
Mais je l'ai regardé, oui, parce que je vous avouerai que c'était un peu long, mais je l'ai regardé parce que moi je suis un peu orphelin en fait. J'ai envie de laisser une chance à tous ces gens de faire des propositions, de voir s'il y a des choses qui ressortent.
Ce que Yves vient de dire est très intéressant parce que si le ticket d'entrée au deuxième tour de cette élection présidentielle descend vers le 17%, comme c'est le cas aujourd'hui entre Marine Le Pen, Zemmour, peut-être un candidat de droite s'ils choisissent le bon, et admettons que les vœux de Jean-Luc soient réunis et que la gauche se réunisse, alors là, tout est... Ce débat qu'on a là, y compris sur l'érosion totale de la gauche et sa disparition, peut être totalement remis en cause d'ici 3 mois. Donc c'est aussi ça l'étonnant enjeu de cette élection qui arrive, c'est cette espèce de reformation de trois pôles, en gros, hein, ouais. trois pôles politiques, dont on ne sait pas trop ce qui va sortir du chapeau. Quoi.
C'est... Ouais. Après, ce qui n'est pas très facile à gauche, c'est qu'aujourd'hui, la première personnalité de gauche dans les sondages, c'est aussi la personnalité la plus clivante.
Oui, c'est vrai.
Ça veut dire que, bon, la marge de manœuvre...
La deuxième,
supposons, voilà, supposons...
Je parle déjà d'Yannick ouais, Jadot.
Ouais, ouais.
C'est vrai qu'Yannick Jadot est moins clivant. Et puis même Arnaud Montebourg, qui est à quoi, 4%, il est aussi moins clivant.
Bon. Il n'est pas à 4.
Il est à quoi, 3, 4,
5 2, il est à 2, 2,5. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, tout
non.
ça.
Non.
Mais c'est vrai que, bon, après, il faut aussi arrêter de regarder un peu... Ouais. La sondocratie a des limites aussi.
Ouais.
Exactement, c'est moins qu'on puisse dire.
Elle a plus de limites que de qualité.
Oui.
Surtout qu'il y a la moitié des gens sondés qui n'ont pas pris position. Hein, donc tout ça, c'est quand même...
Qui refusent de répondre aux instituts de sondage parce que quand on est sur leur téléphone, les gens disent « ça ne m'intéresse pas ».
Bien sûr.
Oui, non, mais c'est ça. Quelques mots tout de même sur Colombey, les deux églises, 51e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle, terre de pèlerinage du gaullisme historique. Bah, maintenant, tout le monde y va. Hein. C'est,
non, pas tout le monde.
Bah, pas tout le monde. Les 5 candidats à la primaire feront le déplacement bah, accompagnés de Christian Jacob. Ouais. Anne Hidalgo sera présente, Marine Le Pen, non pas Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Laurent Jacobelli qui représente le RN au Conseil régional du Grand Est. Ça fait du monde quand même, non ?
Oui, oui, non, mais que la droite, ça, ça me paraît normal, moi.
Oui, Anne Hidalgo, dire, et Anne Hidalgo aussi ?
Ben, Anne Hidalgo, elle se cherche.
D'accord. Ouais. Non, mais tout le monde parle du général de Gaulle. Hein. Je crois que même Mélenchon l'a évoqué.
Bah, peut-être que pour une fois, ils vont servir l'économie. Certes, l'économie locale, oui. le Colombey et les églises, mais peut-être que pour une fois, ils vont servir l'économie.
Ce qui est amusant, c'est que tout le monde parle de De Gaulle, mais en fait, chacun en prend
Montebourg
la partie.
Il y a Arnaud
Montebourg qui l'intéresse qui et oublie soigneusement les combats qui ont opposé, je parle notamment à la gauche, qui nous ont opposé souvent au général de Gaulle.
Arnaud Montebourg à Colombey les deux églises, et là aussi, c'est normal.
On pense que pense que le général de Gaulle souhaitait que sa sépulture soit
discrète,
réalisée dans l'intimité, et que l'enterrement avait été dans l'intimité villageoise de Colombey les deux églises, et que les grands ponts étaient à Notre-Dame de Paris pendant ce temps-là, on se dit quand même que tout ça est pas tellement conforme à la mémoire du général de Gaulle.
Non,
mais bon, on peut puiser beaucoup dans ce qu'a fait le général entre le 18 juin. 1940 et son départ en 1969, chacun peut y trouver chaussure à son pied.
Absolument.
Voilà.
Oui, c'est sûr. Je ne suis pas sûre que lui, comme vous le dites, aurait été ravi.
C'est fascinant de voir à quel point aujourd'hui la classe politique et les Français en général ont besoin de se raccrocher à un héritage,
à
des valeurs passées.
À du passé et à du passé.
Ça montre qu'on a vraiment peur de l'avenir.
C'est la preuve qu'il n'y a pas de travail de fond. Parce qu'en fait, quand on va rechercher dans l'histoire, voilà, il n'y a jamais eu autant de citations dans les discours politiques. Alors voilà, Zemmour est un maître dans l'art. Donc il n'arrête pas de répondre aux questions qu'on lui pose par des citations d'auteurs, etc. C'est très intéressant. Moi ça m'intéresse parce que j'aime beaucoup cet éclairage-là. Maintenant, voilà, le débat est important. Mais le travail de fond, il doit être fait sur les problématiques d'aujourd'hui. Alors l'histoire peut nous renseigner sur des solutions, etc. Mais il faut travailler sur le fond des problématiques d'aujourd'hui.
Les références à la résistance
de Gaulle. Puisqu'on parle de De Gaulle aujourd'hui, la situation que nous vivons là, qui est la situation politique globale, montre aussi l'essoufflement total de la 5e Constitution qu'il avait, lui, créé, façonné, je dirais, à sa mesure et à la mesure de ce qu'était le pays à ce moment-là. Je pense qu'il va falloir que la page se tourne politiquement là-dessus pour aller de l'avant vers une 6e République.
Jean-Luc, un dernier mot.
Les références à la résistance me vont bien, moi.
Ouais.
Moi, je pense que le général de Gaulle, à trois reprises, a lancé une alerte et a dit « on peut se relever ». En 1940, en 1944, parce qu'on était au bord de la guerre civile, et en 1958, quand il est arrivé au pouvoir. Alors, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, il a relevé la France à ce moment-là. Et donc, c'est ça le message d'espoir aujourd'hui du gaullisme.
Merci à vous, merci à tous les quatre. Dans un instant, André Bercoff, très bonne journée sur Sud Radio.